Parole de lecteur. Parole de lecteur, une émission de Monique Fauché.
Bonjour, et aujourd'hui, c'est avec Charlotte Birnet que nous allons faire une émission de Parole de lecteur. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les auteurs ne se déplacent pas en ce moment. Alors, Charlotte Birnet, bonjour.
Bonjour, Monique.
Et merci de venir nous parler d'un livre qui s'intitule Petit pays et qui a été écrit par Gaëlle Fay. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez rencontré ce livre ?
Qu'est-ce qui a fait que j'ai rencontré ce livre ?
Oui.
Oui, il se trouve que je fais des enregistrements pour une bibliothèque sonore, la bibliothèque de la BS de Toulouse, et je fais des enregistrements pour les aveugles. Et donc, je fais des choix de livres pour eux, et on m'a mis entre les mains ce petit livre de Gaëlle Fay, Petit pays, que j'ai beaucoup aimé et que je suis en train d'enregistrer.
Ah, alors, on va parler de cette association parce que ça peut vraiment intéresser nos auditeurs, parce que parmi eux, il y a des personnes qui voient mal, il y en a qui ne voient pas du tout aussi. Donc, c'est une association qui est sur Toulouse, mais il y a des ramifications, non, peut-être, ailleurs ?
Oui, bien sûr, il y a 125 bibliothèques sonores en France.
D'accord. Et en Occitanie, il y en a...
Et ici, il y en a à Toulouse. Après, je sais qu'il y en a une à Tarbes, un petit peu autour de Toulouse aussi. Je ne sais pas trop, là. Je ne pourrais pas vous dire.
D'accord. Oui. Et alors, les personnes qui sont intéressées, que doivent-elles faire ?
Se présenter à la bibliothèque sonore.
Oui.
Rencontrer...
Alors, il y a une adresse.
Il y a une adresse, rue Marcis à Toulouse, M-A-R-C-I-S, à Toulouse.
C'est dans le quartier...
C'est dans le quartier des Minimes.
Des Minimes, oui.
Là, elle rencontre Annick Thomas, qui est la présidente de l'ABS de Toulouse. Et on leur fait faire un essai.
Vous dites la présidente de l'AB...
L'ABS, la Bibliothèque Sonore.
Ah oui, d'accord.
Oui, je dis toujours l'ABS.
Oui, oui, oui.
Et donc, on leur fait faire un essai et une petite formation que j'assure...
Pour manipuler le...
Oui, bien sûr, enfin, parce que ce sont des enregistrements qu'on fait sur ordinateur.
Oui, d'accord.
Il y en a qui le font encore
cassettes,
avec des cassettes,
ou
enfin,
des disques, des CD.
Oui, non, nous aussi c'est sur CD, hein, parce qu'on fait sur ordinateur et ensuite on le grave sur un CD.
D'accord.
Voilà. Donc je fais cette formation, je reçois les gens... Et je leur apprends à lire à voix haute.
D'accord.
Carrément. Donc, vous pouvez penser que tout le monde sait lire. Eh bien, a priori, pas toujours, parce qu'il faut savoir aborder la lecture d'une façon particulière.
D'accord. Alors, Charlotte Birnet, ce que je comprends bien, c'est que là, vous faites un appel au peuple.
Mais oui.
Vous cherchez des donneurs de voix.
Je fais du prosélytisme, carrément.
Mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, attendez, parce que on va rappeler l'adresse et le numéro de téléphone. Alors, il s'agit de madame s'adresser à...
Annick Thomas.
Annick Thomas.
Annick Thomas, qui est présidente de la Bibliothèque Sonore et qui habite, enfin, la Bibliothèque Sonore est 5 rue Marcis, à Toulouse, dans le quartier des Minimes.
D'accord. Et le numéro de téléphone, vous le connaissez ?
Je ne l'ai pas en tête. Ah, non, je vous le donnerai.
Bibliothèque Sonore aux Minimes.
Oui.
Alors, là, les personnes qui veulent enregistrer des livres sont priées, sont vraiment encouragées même à se présenter à cette personne. Et les personnes qui souhaitent, qui voient mal ou pas, comment font-elles pour entrer en contact avec cette bibliothèque sonore ?
Là, pareil, ils téléphonent à la bibliothèque sonore et on leur indique comment ils peuvent recevoir des livres. Alors, je ne suis pas très, très au courant de cela, mais je sais que, par exemple, ils choisissent ces livres sur un catalogue où des personnes le lisent pour elles, tous les livres qui existent. Il y en a des milliers, hein, parce que on peut aussi faire venir des livres qui sont dans d'autres bibliothèques de France.
D'accord.
Ce sont les Lions Club qui sont à l'origine de tout ça. Mmh. Et ils ont créé ça en 1970-72, je crois. Et donc, il y a des milliers de livres qui sont enregistrés et qu'on peut graver pour les personnes qui sont en demande.
D'accord.
Voilà. Alors, ils choisissent les bouquins et on le leur envoie par la poste. Il y a un accord avec la poste, le ministre de la Culture, je crois, enfin, etc., pour que on ne paye pas les envois.
Oui.
Enfin, il y a,
oui.
Bon, il y a quand même des accords qui existent. Et ils reçoivent ces CD qu'ils gardent chez eux pendant X temps, ça je ne sais pas exactement, et ils peuvent écouter les livres qui sont enregistrés.
D'accord. Et est-ce que, par exemple, plutôt que d'aller à cet endroit s'ils habitent loin, est-ce qu'ils peuvent s'adresser à la bibliothèque de leur quartier et qui fait l'intermédiaire? Est-ce
non.
que c'est possible?
Non, là, je ne pense pas.
Non,
non. Non. Voilà. Non, là, je ne pense pas parce qu'il faut qu'ils soient inscrits à la bibliothèque sonore. Non.
D'accord.
Il n'y aura pas de lien.
D'accord. Bon, bah merci pour ces informations. Donc, Bibliothèque Sonore au quartier des Minimes. Maintenant, en fait, c'est vous qui avez choisi d'enregistrer ce livre? C'est votre choix?
Oui. Alors, parce qu'à la Bibliothèque Sonore, on peut soit choisir le livre qu'on veut enregistrer, s'il n'a pas déjà été enregistré, parce qu'il y a un serveur national qui nous l'indique. Et s'il n'a pas été enregistré, donc on peut entamer la lecture. Autrement, il faut qu'on choisisse un autre livre.
Bien sûr.
Donc, j'ai choisi ce livre de Petit Pays et que je trouve absolument magnifique. Magnifique.
Qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans?
Alors, ce que j'ai aimé, c'est que d'abord, on m'avait dit que c'était le récit d'un jeune garçon qui a habité le Rwanda et le Burundi. Et on connaît le drame qui a eu lieu dans ces deux pays. Et donc, je pensais effectivement trouver l'histoire de cette guerre épouvantable, de ce génocide.
Et, mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Et la lecture de ce livre m'a... Alors, je savais aussi que Gaël Faye était un rappeur. Bon, j'aimais bien ce qu'il faisait, mais ce n'est pas trop non plus ma tasse de thé. Et je me disais peut-être que le livre va être un peu dans ce style-là et des phrases un peu scandées. Enfin, bon, j'en avais un peu peur. Et pas du tout. J'ai trouvé un livre qui m'a passionnée parce que la lecture est toute simple. Et en général, c'est la simplicité, c'est la beauté.
C'est vrai. On a découvert non seulement un chanteur de rap, mais également un auteur. Alors, on pourrait dire un mot, justement, enfin un mot peut-être plus, de ce qui s'est passé au Burundi. Et je crois que vous avez un extrait qui va déjà amorcer la discussion.
Oui, pour faire cette différence entre Hutu et Tutsi, on ne sait jamais lesquels ont assassiné les autres.
Oui.
Et
ils se sont tous mutuellement assassinés,
mais
je
oui,
crois.
Mais oui, c'est ça qui est terrible. Oui. Et là, en l'occurrence, c'était les Hutus qui ont assassiné les Tutsis. Mais enfin, bon, et pareil, vous avez raison. Les Hutus.
Oui.
Alors, dans le prologue, on a un peu cette explication. Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé, dit l'auteur. Papa nous avait pourtant tout expliqué un jour dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits, avec de gros nez. Comme Donatien, j'avais demandé. Non, lui c'est un Zaïrois. C'est pas pareil. Comme Proté, par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Toas, les Pygmées. Eux, passons, ils sont quelques-uns seulement, on va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis, il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus, ils sont grands et maigres, avec des nez fins, et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Toi, Gabriel, avait-il dit en me pointant du doigt, tu es un vrai Tutsi, on ne sait jamais ce que tu penses. Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça? Alors j'ai demandé. La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire? Non, ce n'est pas ça. Ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue? Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même Dieu? Si, ils ont le même Dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange, cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder le nez et la taille des gens dans la rue. Quand on faisait des courses dans le centre-ville, avec ma petite sœur Anna, on essayait discrètement de deviner qui était Hutu ou Tutsi. On chuchotait. lui avec le pantalon blanc. C'est un Hutu, il est petit, avec un gros nez. Ouais, et lui là-bas, avec le chapeau, il est immense, tout maigre, avec un nez tout fin. C'est un Tutsi. Oui, mais et lui là-bas, avec la chemise rayée, c'est un Hutu. Mais non, regarde, il est grand et maigre. Oui, mais il a un gros nez. C'est là qu'on s'est mis à douter de cette histoire d'ethnie. Et puis, papa ne voulait pas qu'on en parle. Pour lui, les enfants ne devaient pas se mêler de politique. Mais on n'a pas pu faire autrement. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou de Tutsi. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire « Regardez, c'est un Tutsi avec son nez. » Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir.
Oui. Déjà, alors, c'est vrai que vu à travers un enfant, non sans humour d'ailleurs, hein, vraiment, c'est encore différent. Alors, pour nos auditeurs, on peut rappeler que la tribu des, ou l'ethnie des Tutsis compte entre 10 et 15% de la population et celle des Hutus est 5 à 6 fois plus nombreuse. Et en fait, les Tutsis étaient des éleveurs, les Hutus des agriculteurs. Et les Tutsis, alors je ne sais plus, puisque ça a été une province, une colonie belge, je ne sais pas si ce n'est pas les Européens qui ont donné le pouvoir aux Tutsis, les jugeant plus à même de commander. Mais évidemment, cela a créé une animosité entre eux. En 87, il y avait 13 sur 5 gouverneurs de province, 13 étaient Tutsis. Et la totalité de l'armée aussi. Alors voilà, alors l'insurrection des Hutus contre le régime, il y a eu en 72 une première insurrection des Hutus qui a été écrasée. Le massacre a, on pense, entre 100 000 et 300 000 morts, ce qui est quand même beaucoup. Là, c'était les Hutus. Et en 72, donc, il y a eu cette insurrection contre le régime dictatorial du président Tutsi Mikombero. Et là, évidemment, ça c'était en avril 94, jusqu'au 17 juillet, il y a eu 600 000 victimes des Tutsis, la plupart.
Et là, ouais. Ça a duré 3 mois, effectivement. En 3 mois, ils ont tué énormément de...
Et dans les marécages en particulier, et à la machette. Voilà. Bon, maintenant, on pense qu'ils entrent dans une phase, du moins au Rwanda, dans une phase de réconciliation, on l'espère. Mais voilà, l'histoire, la triste histoire des Hutus et des Tutsis. Et Gaël Faye, là-dedans, donc beaucoup de jeunes le connaissent à travers ses raps. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ?
Sa maman était Tutsi.
Oui.
Et son papa était européen, il était français. Il était français.
Entrepreneur.
Ouais. Je ne sais pas si l'histoire qu'il raconte sur son père dans le bouquin est vraie. Là, je pense que c'est imagé quand même. Hein.
Alors, c'est vrai qu'il a changé le prénom. C'est Gabriel,
oui.
Là, hein, il me semble.
Oui,
c'est
il s'appelle, lui s'appelle Gabriel dans le livre.
Alors, il dit qu'il y a des choses modifiées.
Oui, bien sûr.
Mais bien sûr. On ne sait pas lesquelles. Donc, en tout cas, c'est à 13 ans non, qu'il a quitté
oui,
le Burundi.
Oui, oui. Ouais. Il a quitté le Burundi à 13 ans.
Oui. Et donc, il est allé en France. Et là...
Se réfugier en France, parce que c'était très dangereux pour eux
oui,
à l'époque. Hein.
Oui.
Très dangereux. Oui, on commençait à assassiner tout le monde aussi dans son quartier.
Oui. Et à un moment donné, il me semble qu'il dit qu'il avait presque plutôt peur d'être considéré comme français que comme Tutsi. Dans son livre, à un moment donné, il dit ça, il me semble.
Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme
pas
ça.
Non. En tout cas, alors, il va à Versailles. Là, il va dans une MJC et c'est là qu'il découvre le rap. Déjà, il y a une forme de poésie dans ses raps.
Hein, Bien sûr.
On pourrait peut-être l'écouter.
gatoyi gahungu kaniniya warapfunywe niwapfuye waragowe niwagoka gahungu gatoyi gahungu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Niwakomora mu musha wanje.
Gaugu gatoyi,
gaugu
kaniniya. Warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Monique Fauché, oui, en agréable compagnie avec Charlotte Birmet, qui vient nous parler d'un roman. Un roman, pas vraiment, quasiment une autobiographie. Mais enfin, il y a une partie romancée très probablement, du moins c'est ce que dit Gaël Faye, l'auteur de Petit Pays. Petit Pays qui est en cours d'enregistrement dans la bibliothèque par Charlotte Birmet, qui est une personne très active puisqu'elle s'occupe de la bibliothèque sonore où elle enregistre des livres. Est-ce que ce sont d'ailleurs Il y a des demandes de la part de personnes qui se... Est-ce qu'on vous dit, j'aimerais que...
Des personnes qui sont en difficulté de lire,
oui,
bien sûr.
Oui, et qui diraient, j'aimerais Absolument. Que tel titre soit... Ah oui.
Oui. Nous avons concrètement une armoire à l'ABS. Et dans cette armoire, ils déposent les livres qu'ils aimeraient qu'on lise.
D'accord.
Oui, bien sûr.
Très intéressant. Mm-hmm. Voilà. Alors donc, nous venons d'écouter Gaël Faye qui, dans un premier temps, je crois, a trouver une manière de se reconstruire, parce qu'il est parti, il devait avoir 13 ans, non, je crois.
Oui, oui.
Donc, dans le rap, qu'il a rencontré dans une MJC des Yvelines, dans le rap, il a pu créer, et le fait de créer, c'est quand même... C'est une respiration, hein, très probablement. Et ça a marché. D'emblée, ça a très bien marché, même. Donc, il étudiait au lycée. Et puis, il est allé travailler. Il est allé faire un master de finance à Londres. Et on imagine, voyant cette sensibilité artistique, cette sens de la poésie, on comprend qu'il ne soit pas resté longtemps dans la finance à Londres. Donc maintenant, il vit, alors pour nos éditeurs, il vit à Kigali, la capitale du Rwanda, avec sa femme et leurs enfants. Si on a le temps, il explique pourquoi il vit à Kigali et non pas ailleurs. Voilà. Alors, Charlotte, évidemment, c'est un jeune garçon très ouvert. On voit que c'est un garçon très vif, intelligent. Avide certainement de connaissances. En tout cas, il a trouvé quelqu'un qui l'a mis sur la voie.
Oui, effectivement. Dans le livre, il dit qu'il avait donc entre 11 et 12 ans et il a rencontré une grecque qui s'appelait Madame Economopoulos et qui était une vieille dame. Et si vous voulez, je peux vous lire un extrait de sa rencontre avec cette vieille dame et les livres qu'elle lui a qu'il a lu à partir de cela. Un après-midi, j'ai croisé par hasard Madame Economopoulos devant sa haie de bougainvilliers. On a échangé quelques mots sur la saison des pluies et le beau temps, et puis elle m'a invité à entrer dans sa maison pour m'offrir un verre de jus de barbadine. Dans son grand salon, mon regard a tout de suite été attiré par la bibliothèque lambrissée qui couvrait entièrement un des murs de la pièce. Je n'avais jamais vu autant de livres en un seul lieu, du sol au plafond. « Vous avez lu tous ces livres ?» j'ai demandé. « Oui, certains plusieurs fois même. Ce sont les grandes amours de ma vie. Ils me font rire, pleurer, douter, réfléchir. Ils me permettent de m'échapper. Ils m'ont changé, ont fait de moi une autre personne. » « Ah bon? Un livre peut vous changer ?»« Bien sûr, un livre peut te changer. Et même changer ta vie, comme un coup de foudre. Et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres. Ce sont des génies endormis. » Mes doigts couraient sur les rayonnages, caressaient les couvertures, leurs textures si différentes les unes des autres. J'énonçais en silence les titres que je lisais. Madame Economopoulos m'observait sans rien dire. Mais alors que je m'attardais particulièrement sur un livre, intriguée par le titre, elle m'a encouragée. « Prends-le, je suis sûre qu'il te plaira. » Ce soir-là, avant d'aller au lit, j'ai emprunté une lampe torche dans un des tiroirs du secrétaire de papa. Sous les draps, j'ai commencé à lire le roman. L'histoire d'un vieux pêcheur, d'un petit garçon, d'un gros poisson et d'une bande de requins. Au fil de la lecture, mon lit se transformait en bateau, j'entendais le clapotis des vagues taper contre le bord du matelas, je sentais l'air du large et le vent pousser la voile de mes draps. Le lendemain, j'ai rapporté le livre à Madame Economopoulos. « Tu l'as déjà terminé ? Bravo, Gabriel ! Je vais t'en prêter un autre. » La nuit d'après, j'entendais le bruit des fers qui se croisent, le galop des chevaux, le froissement des capes de chevaliers, le froufrou de la robe en dentelle d'une princesse. Un autre jour, j'étais dans une pièce exiguë, cachée avec une adolescente et sa famille, dans une ville en guerre et en ruine. Elle me laissait lire par-dessus son épaule les pensées qu'elle couchait dans son journal intime. Elle parlait de ses peurs, de ses rêves, de ses amours, de sa vie d'avant. J'avais l'impression que c'était moi qu'il était question. J'avais l'impression que c'était de moi qu'il était question, que j'aurais pu écrire ces lignes. Chaque fois que je lui rapportais un livre, Madame Economopoulos voulait savoir ce que j'en avais pensé. Je me demandais ce que cela pouvait bien lui faire. Au début, je lui racontais brièvement l'histoire, quelques actions significatives, le nom des lieux et des protagonistes. Je voyais qu'elle était contente et j'avais surtout envie qu'elle me prête à nouveau un livre pour filer dans ma chambre et le dévorer.
Voilà comment un livre peut nourrir l'imaginaire, la sensibilité d'un enfant. On ne dira jamais assez aux parents, encouragez vos enfants à lire. Voilà, ce n'est pas toujours évident, je le sais. Il y en a qui sont rétifs, bon, mais ceux qui sont tournés vers cela, il faut vraiment les encourager. Alors, nous revenons à Gabriel, ou Gaël, on va dire Gabriel, puisque c'est le personnage de ce livre. Et une enfance, il a eu, somme toute, une enfance plutôt heureuse. Un gamin vivant dans une impasse d'un quartier d'expatriés.
Oui, il était privilégié.
Oui, plutôt.
Absolument.
Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait sa bande de copains?
Il avait une bande de copains formidable et il faisait un peu les 400 coups ensemble. Il volait des fruits qu'il revendait. Par exemple, avec Madame Economopoulos, elle avait des manguiers formidables. Il piquait les mangues et il les lui revendait. Là, ça, c'est amusant.
Oui, alors il y avait aussi un lieu mythique. C'était une vieille voiture, une carcasse de voiture.
Oui, le combi, ils appellent ça le combi. C'est un combi Volkswagen, une carcasse de voiture dans laquelle ils se retrouvaient pour se raconter mille et une choses.
Et puis, fumer quelques bouts de cigarettes aussi.
Bien sûr, oui. Boire des Fanta, ils buvaient des Fanta, je me souviens.
Oui. Et alors, en fait, ce qu'il raconte aussi, c'est qu'il part, avec son père voir des pygmées. Il raconte ça à un moment donné.
Oui.
Et il est épaté, il est par la beauté des lieux. Et effectivement, le Burundi, on a dit que c'était la Suisse africaine.
Avec des animaux étranges, puisqu'il y a des singes verts dans certains endroits.
Ouais.
Oui.
Ouais. Oui, la beauté des lieux, les animaux, également les cultures qui sont florissantes. En fait, c'est un pays considéré comme riche en Afrique. Et il raconte tout ça, l'odeur des citronnelles, oui. les histoires de termites aussi, les jours d'orage.
Oui.
Mes souvenirs sont exacts. Alors... comment est la mère?
Sa mère, alors effectivement, là, c'est là qu'on rentre dans le roman. Je pense pas que ce soit une histoire vraie, parce que je pense que sa mère est toujours vivante.
Oui, je crois.
Donc là, c'est complètement romancé.
Elle vit en France d'ailleurs.
Et il en fait une femme complètement meurtrie parce que cette femme a perdu une partie de sa famille. Et alors ça, c'est vrai.
Je crois que c'est vrai.
Mais la façon dont il le raconte, c'est absolument épouvantable. Parce que cette femme devient folle. Elle boit, elle finit par boire et elle devient folle. Et elle confond son fils avec le petit Christian qui avait le même âge, donc 11 ans, quand il a été assassiné par les Hutus. Avec ses sœurs. Sa tante, elle avait un prénom absolument délicieux, la tante Eusébie, avait 4 enfants. 3 filles et un garçon. Christiane, Christelle, Catherine, enfin, qu'avec des C, et le fameux petit Christian, le petit garçon. Et toute la famille a été assassinée dans leur maison. Ça a été épouvantable.
Et c'est sa mère qui a découvert...
C'est sa mère qui enfin, d'après le roman, en fait, d'après le livre, qui a découvert cette famille et qui est restée avec tous ces petits cadavres qui étaient là depuis plusieurs mois. Donc, vous voyez dans quel état ça pouvait les a trouvés. Et elle les a enterrés dans le jardin, toute seule. Et après, elle a passé beaucoup de temps à essayer d'effacer les traces que les enfants avaient laissées sur le sol avec leur sang. Et elle racle ce sang avec ses mains. Enfin, le descriptif, là, est empreint d'émotions et de...
Oui, oui.
C'est ouais, terrifiant.
On sent que la douleur extrême. Il dit, notre mère nous apprenait qu'on avait perdu des membres de notre famille, mais elle ne commentait pas plus que ça ce qui était en train de se passer. Je me suis dit, quel effet de ce non-dit sur des enfants ? Il y a quand même une grande zone d'instabilité, d'inquiétude, d'angoisse même.
Oui, et même son père, enfin toujours d'après le roman, même son père refusait de parler politique avec les enfants. Peut-être parce qu'il les estimait trop jeunes aussi. Il avait entre 10 et 11 ans, sa petite sœur 3 ans de moins, et il refusait de parler politique. Donc il était, comme c'était un enfant qui était quand même très curieux, à travers ses copains, à travers ce qu'il pouvait entendre à droite, à gauche ou la radio, il arrivait à reconstituer cette histoire terrifiante.
Alors, il y a quelque chose d'assez, aussi d'assez, de très marquant. Alors, on ne sait pas ce qui est le plus marquant pour un enfant, c'est que les parents, à ce moment-là, il y a une mésentente qui s'est installée entre les parents.
En effet.
Et c'est assez imbriqué dans cette histoire.
En effet. Et j'ai lu par ailleurs que Gaël Faye voulait écrire ce livre sur la détresse des enfants de divorcés. Et il avait donc eu l'idée de ce livre en partant de ça.
De divorcés, de couples mixtes.
De couples mixtes, oui. Effectivement. Oui, oui. De couples mixtes, parce qu'il partait du principe que ces couples mixtes divorçaient beaucoup plus que les autres. Je ne sais pas.
Et que pour les enfants, c'était encore plus compliqué que pour les autres.
Oui. Donc, il était parti sur cette idée pour écrire ce livre. Et puis, c'est par la suite qu'il s'est rendu compte que ça l'amenait à parler de cette guerre épouvantable, de ce génocide. Et donc, il en a fait un livre qui est un vrai bonheur. Mais c'est vrai qu'il y a, en trame, il y a ces disputes violentes, difficiles entre son père et sa mère, l'amour qu'il leur porte et l'espoir qu'il a de les voir se réunir par bribes, souvent, c'est assez poignant.
Parce que le père quitte le foyer, probablement.
Non, pas du tout.
Non, il reste
pas
là.
Du tout, pas du tout. C'est le père qui reste et c'est elle qui s'en va. Et
c'est elle qui s'en va, ouais. D'accord. Oui, alors il y a
qui s'en va et qui revient et qui s'en va à nouveau.
Il y a
qui...
déjà une instabilité, un sentiment d'insécurité, probablement, qui s'instaure dans la tête de cet enfant, non ?
Sa mère est blessée. Elle est... On sent chez elle un déséquilibre.
Elle a vu trop d'horreurs.
Absolument. Qu'elle a vécu avant, après... elle est blessée, cette femme.
Oui. Ouais. J'ai lu ce qu'il disait à un moment donné. Les femmes ont assisté à distance à la mort des leurs et en sont ressorties avec des traumatismes difficiles à décrire, mais aussi des rescapés de ma famille. On se rend compte qu'il y a une forme de distanciation et en même temps, par exemple, à un moment donné, le premier président Hutu est élu au Burundi et il est assassiné. Et là, quelqu'un lui dit, il va à l'école et quelqu'un lui dit « Rentre chez toi petit, le président a été tué ». Et c'est à ce moment-là que vont commencer la pire des choses.
Absolument.
Oui.
Oui.
Alors, est-ce que ça va crescendo ou comment ça, le roman évolue ?
Oui, c'est vrai, ça va crescendo. Et on est pris par cette lecture parce qu'il y a ce drame, effectivement, de cette tuerie, mais aussi par... c'est de voir cette histoire par le prisme de l'enfant qui est intéressant aussi.
Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Oui, parce qu'il ne voit peut-être pas... Les priorités ne sont pas les mêmes, peut-être.
Et ça, je trouve que cet auteur le raconte vraiment de façon très, très touchante pour ça.
Oui, oui, oui. Oui. Ce qu'il dit à un moment donné, j'ai lu ça dans une interview, « J'y ai vécu la dualité entre Hutu et Tutsi de manière feutrée. L'un de mes amis, un métis qui s'appelait Gino, comme le personnage du film, et qui était très au fait de la question ethnique, me conseillait, quand on allait se faire couper les cheveux à Buja, de dire que j'étais malgache. Le coiffeur était Hutu, et Gino considérait que ça pouvait être dangereux pour nous. Pourtant, je ne me sentais pas en danger du fait que ma mère était une réfugiée rwandaise Tutsi. Dans le contexte de l'époque, où Bujumbura était tenue par des gangs Tutsi, c'est surtout le fait d'être en partie français qui m'a fait ressentir un risque. Alors...
Oui, c'est très complexe.
Oui, nous, depuis la France, on se dit, mais une chatte n'y retrouverait pas ses petits.
Absolument. Hein,
c'est très complexe, très, très complexe.
Très complexe.
Alors, est-ce qu'il a choisi d'être Tutsi, français, ou est-ce qu'il a choisi de se positionner dans le livre ?
Dans le livre, il est métisse.
Oui.
Il est vraiment métisse.
Et il est accepté en tant que métisse
oui,
par ses copains.
Que, mais parce qu'il est protégé par le quartier dans lequel il vit. Ils sont, il y a, déjà, il y a plusieurs métisses. Gino aussi, Gino est métisse lui-même.
Oui.
Et lui, c'est un ami d'enfance. Hein, alors que les autres, il les a peut-être inventés ou il les a arrangés. Tandis que Gino, c'est vraiment son ami d'enfance.
D'accord. On va peut-être écouter... Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est un rap de Gaël Faye ou est-ce que c'est les tambours du Burundi qui sont très très connus, très connus, internationalement connus, mais vous savez que le gouvernement actuel interdit dans les fêtes les tambours du Burundi, il faut que le gouvernement donne l'autorisation. C'est nouveau.
L'histoire d'un animal, un léopard, qui symbolise la force, la grandeur des guerriers et la bravoure. Manière aussi de s'ouvrir au monde, de transmettre une part de nous et de la partager avec les enfants surtout, qui peuvent eux-mêmes plus tard aller chercher, peut-être voyager.
Que mon cœur et que le tambour est sacré pour tout peuple burundais, c'est un art du cœur.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Voilà, et en compagnie de Gaël Faye qui a écrit Petit Pays, un roman remarquable, son premier roman, lui qui est chanteur, compositeur de rap. Finalement, le rap, très souvent, quand c'est du rap de bonne qualité, c'est de la poésie avec un rythme. Et donc, Le Petit Pays, c'est sa jeunesse passée jusqu'à 13 ans au Burundi, au moment de ces événements qui ont été en fait un génocide. Alors, merci à Charlotte Birmet de venir nous en parler, puisqu'elle est donneuse de voix. Est-ce qu'on dit ça, donneuse
oui,
de voix ?
Oui, exactement.
D'accord.
Oui.
Pour la Bibliothèque Sonore de Toulouse, et qui est en train d'enregistrer ce roman. Alors, ce roman, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Gaël Faye dit pourquoi il l'a écrit. Il dit, en fait... J'ai écrit ce roman pour crier à l'univers que nous avons existé avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et devenir une bande d'exilés, de réfugiés, d'immigrés, de migrants. En fait, ça l'a fait grandir très vite, je pense, cette histoire.
Oui, certainement. Certainement, on peut pas sortir indemne d'une telle histoire.
Oui.
Alors son roman est un... Je pensais que c'était juste un témoignage, et le récit d'un témoignage, mais je trouve que c'est aussi un abandon. Il s'est donné complètement à ce livre, et c'est pour ça qu'il est vraiment touchant, ce livre.
Oui. Oui, oui. Et peut-être que sans doute que ça lui a fait du bien, justement, de se libérer, un peu en tout cas, de se libérer. Alors, il veut se souvenir, c'est important finalement d'écrire pour que les souvenirs ne s'estompent pas.
Bien sûr.
Mais ce que j'ai aimé, moi, dans ce livre, quand je l'avais lu, c'est ce côté quand même universel. C'est un livre sur l'enfance, sur le mal qu'on peut faire à l'enfance aussi. Évidemment, les hommes se sont entretués, mais les enfants n'ont pas été épargnés.
Évidemment.
Et il y a cette violence aussi à l'égard des enfants, cette violence physique, mais aussi psychologique. Et évidemment, quand je dis que c'est universel, parce que je pense qu'actuellement, dans bien des endroits du monde, il y a cette violence exercée sur des enfants, des jeunes, des adolescents aussi.
L'interrogation qu'on a aussi, c'est la haine. Pourquoi tant de haine entre des hommes que n'ont pas les enfants au départ et qu'ils apprennent ?
Oui, l'exemple qui est donné.
Ils deviennent aussi, ils deviennent haineux.
Oui.
Et on leur fait faire des choses à un moment donné dans le livre. Je ne sais pas, il ne faut pas tout raconter non plus, parce que si on a envie de découvrir le livre, c'est un peu difficile.
Oui.
Mais il va se retrouver confronté à faire un geste qu'il n'aurait jamais fait, qu'il n'aurait jamais eu l'idée de faire, et qu'il réprouve. Et il va faire ce geste parce qu'il a le regard des autres qui est là et qui le pousse à faire ce geste épouvantable pour un enfant.
Oui, c'est un passage très fort dans cet ouvrage. Ouais. La violence engendrant la violence. Et c'est vrai qu'on blesse vraiment des enfants de cette manière-là aussi. Ouais. Il dit il y avait des gangs tutsi, les sans-échecs. Ils n'avaient pas d'échecs. Et puis, il y avait les miliciens hutus, qui ont transformé le Rwanda en boucherie à ciel ouvert, cette violence. Donc, et puis, ça c'est Jean Asfeld qui est venu ici à votre place, Charlotte Birmet, qui me disait cette envie de comprendre. Et lui aussi a envie de comprendre, je pense, en écrivant. J'imagine, parce que c'est un homme jeune, certes, mais un homme maintenant, comprendre ce carnage, ce déchirement, envie de comprendre ce qui s'est passé. C'est un mystère, ce mal à l'état pur.
Et c'est absolument incompréhensible, moi, je dirais. Parce que comment arrive-t-on à tuer des mères avec leurs bébés dans les bras, des femmes enceintes avec une machette ? C'est incompréhensible.
Ouais.
C'est, où va-t-on chercher cette... Comment l'homme arrive à faire un tel geste? Alors, je me souviens, j'avais écouté l'émission de Daniel Mermet sur France Inter à l'époque. C'était en 94, donc. Et qui essayait d'expliquer, parce qu'on était en plein massacre à ce moment-là. Et lui, il avait consacré une émission à ça. Et comment on arrive justement à faire ce geste-là? Et alors, il disait que... D'abord, il se droguait aussi un peu. Et puis, Et puis, cette violence venait du fait que ceux qu'il devait tuer n'étaient plus des hommes, n'étaient plus des êtres humains, mais des cancrelats, des serpents, des animaux dont il fallait absolument se débarrasser. Donc, on arrive à transformer le cerveau d'un homme pour qu'il puisse, avec sa machette, aller tuer une femme avec son bébé.
Oui. Et il ne voit plus qu'il a en face de lui un être humain.
Et il n'a plus, d'être humain.
Jean Asfel disait, parce qu'il y est allé, il y est revenu une fois, deux fois, trois fois. Il a écrit trois ouvrages qui sont passionnants. Passionnants parce qu'il dit, en fait, qu'il voulait... cerner ce secret caché au cœur de l'humain.
Et il n'y est pas arrivé.
Parce que ce sont quand même des hommes, c'est le mal à l'état pur.
Oui.
Oui.
Il y est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait?
Non.
Il n'est pas arrivé.
Non, c'est incompréhensible.
Mais c'est-à-dire que moi, ça me terrifie, ça, parce qu'on peut faire de nous ce qu'on veut, en fait.
Ah, vous
regardez ce qui s'est passé avec Hitler aussi.
Oui, avec Oradour Sioglan, par exemple, tout ce qui a été fait, où là, les enfants, les femmes étaient parqués dans une église... Et donc, comme vous dites, ça se fait partout. En Syrie, on voit ce qui s'est fait.
Et on n'en sortira jamais de ça. On n'en sortira pas. L'homme est mauvais.
Et bon.
Par excellence.
Je crois. Moi, je ne vais pas être aussi. Je pense qu'il y a... Quand on présentait... Ça a été longuement discuté au moment du procès d'Eichmann. Et je crois que c'est Hannah Arendt qui disait « Mais non, ce n'est pas un monstre, c'est un homme. » Et que dans l'homme, il peut y avoir, justement... Mais alors, qu'est-ce qui fait que l'on s'empêche? Comme disait le père de Camus, je ne sais pas si vous avez lu son dernier livre... où le père dit, on s'empêche, effectivement, pour ne pas commettre une mauvaise action. Il n'en était pas à... Lui, il ne parlait même pas d'un crime, mais il dit, on s'empêche. Qu'est-ce qui fait que l'on s'empêche ou que l'on ne s'empêche pas? C'est assez étonnant.
Ça fait peur.
Ça fait peur, mais en même temps, ça laisse toutes ses chances à l'homme de s'empêcher. Il est maître de lui, il peut être maître de lui. Mais vous disiez, effectivement, n'oublions pas quand même qu'il se droguait souvent, ou qui buvait, il y avait ça. Mais il n'empêche que... c'est vrai que c'est un livre qui pose beaucoup de questions quand même.
Sur la désespérance aussi.
Oui, vous l'avez vu comme ça.
Oui, moi je le vois comme ça.
Et en même temps, je vais dire, allez, je vais faire mon petit quart d'heure d'optimisme. je pense quand même qu'il a fondé une famille, il a deux enfants, il est allé s'installer au Rwanda. Et il dit, lorsqu'on vit en exil, on a tendance à se forger des images fantasmées du pays. Je ne voulais pas que le Rwanda soit un pays lointain, abstrait, un pays de vacances. Je voulais le vivre au quotidien. Si j'écris sur le Rwanda ou le Burundi pendant 20 ans sans jamais plus y habiter, ce sera une posture. Il a renoué avec son pays. Il a renoué et je pense que la petite pierre qu'il dépose, c'est une pierre positive.
Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce sont ses racines, donc on peut comprendre aussi.
Voilà. Alors, c'est une...
Il a besoin de retrouver une paix, peut-être aussi, mais est-ce qu'il l'a?
Est-ce qu'il l'a? Je ne sais pas. L'histoire nous le dira peut-être. On espère qu'il va écrire encore. En tout cas, alors Charlotte Birme, je vous rappelle donc que Jean Asfel, si ce thème vous intéresse, c'est vrai qu'en ce moment, on a peut-être besoin de livres un peu plus heureux. Mais Jean Asfel a fait de très belles enquêtes. Il était reporter de guerre à Sarajevo, où il a été gravement blessé d'ailleurs. Et là, il a écrit Dans le nu de la vie, puis Une saison de machette qui a eu le prix Femina, et La tragédie des antilopes, où là, ce sont les témoignages des victimes et des tueurs 12 ans après le génocide. Voilà. Donc, on se pose la question, est-ce que tout est réglé dans ce pays-là ? La question reste ouverte. En tout cas, un grand merci à vous. On va peut-être terminer par une chanson de Gaël Faye, puisqu'il a écrit plusieurs raps. Et en tout cas, Charlotte Birme, merci de nous avoir parlé de cet ouvrage.
Merci à vous.
Depuis mes sources du Nil jusqu'en haut de la tour Eiffel, j'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer, j'aurais tout jeté. Mes refrains, mes couplets, écouter le studio, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé, j'ai douté. J'avance sur des chemins chaotiques, venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Goutteux, dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant, mais je reflète l'obscurité, identité. De porcelaine, j'ai fait ce morceau-là pour assembler le puzzle d'un humain morcelé, jamais à ma place. Les frontières, j'efface et m'effraie comme Damas, mon sentiment de race, blanc et noir. Quand le sang dans mes veines se détraque, je suis debout au confluent du fleuve et du lac. Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Car quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Un beau bordel chromosomique, demande à Benetton, mais laisse béton. On aura beau se mélanger, on restera des cons. La race humaine, un clébard, marquant son territoire, gueulant l'appartenance à son département, ni blanc ni noir. J'étais en recherche chromatique, mais le métis n'a pas sa place dans un monde dichotomique. Donc c'est dit, je suis noir dans ce pays. C'est pas moi qui l'ai voulu, je l'ai vu dans le regard d'autrui, c'est comme ça. Laisse-les chanter nos mélanges de couleurs, laisse-les parler de diversité, de France, black, blanc, beurre, on serait tous métis, le reste c'est de la bêtise. Voilà que j'ironise sur ce que les artisans de la paix disent. J'ai pas de frontières, j'ai pas de race, je suis chez moi partout sans être jamais à ma vraie place.